Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de débrief de Touchdown Actu avec aujourd'hui un retour, un nouveau retour sur la suite du tour de wildcard, donc des playoffs NFL, avec notamment les trois rencontres qui se sont disputées dans la nuit de dimanche à lundi, avec notamment la belle revanche des Giants et les duels de division haletants dans la conférence américaine où les défenses, vous le verrez, se sont pas mal mises à l'honneur. Pour parler de ces trois rencontres et de ces différents sujets dans cette émission, il y aura donc moi-même, donc Grégory Richard, ainsi que monsieur Victor Roulier. Salut Victor.
Salut Grégory, quelle politesse de t'introduire en premier.
Écoute, bravo.
Elle est belle la France. Hein.
Faut marquer cette différence.
Ah non, mais pardon, hein, on va en finale de collège football en direct de Los Angeles, etc. Non mais voilà, je vois qu'on est dans le
vrai.
Même monde. Hein.
C'est vrai, j'hésitais à parler de moi à la troisième personne, je me suis retenu. Et voilà, écoute, il faut marquer la différence. On en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon rétablissement à Alain Mattei, qui était quelque peu souffrant avant cette émission. Voilà, qu'on a préféré laisser au repos. Hein, voilà, on le manage pour la suite des événements, notamment en vue du tour de division. Je sais pas trop comment ça se passera pour
selon John Harbaugh, il est day to day. Mais après, voilà. Hein,
alors c'est pas bon signe ces derniers
vous
temps
vous
que John Harbaugh annonce
un
ordre day to day.
c'est un peu notre Lamar Jackson à nous. Hein.
Voilà, c'est ça. Bon, écoute. Donc voilà, tiens le coup Alain, sois fort. Voilà, je compatis hein, entre Baptou fragile. Je compatis énormément en cette période difficile pour toi. Bref, on rentre dans le vif du sujet, Victor, et on va commencer tout d'abord par l'actualité qui concerne la conférence nationale. On évoque tout de suite les New York Giants qui étaient en déplacement du côté des Minnesota Vikings. Alors, on va rappeler un petit peu le contexte hein, de ces différents matchs de playoff. On rappelle que c'était notamment du fait des trois matchs intra-division, si on rencontre qu'ils s'étaient déjà joués en saison régulière. Et les Giants, dans ce cas de figure-là, s'étaient déjà déplacés du côté de Minneapolis pendant la saison avec une défaite d'une courte tête. Je me demande si c'était pas sur un field goal de Eric Joseph à l'époque.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et donc, on attendait de voir un petit peu ce que ça allait donner, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait d'un côté ces Giants qui n'avaient pas une énorme expérience et qui surprennent de toute façon depuis le début de la saison. Et ces Vikings qui étaient un peu sur le fil du rasoir constamment cette année. Et le moins qu'on puisse dire, Victor, c'est que globalement, notamment offensivement, les Giants étaient assez bien préparés.
Oui, écoute, j'ai été assez estomaqué par ce match. Pas tellement par la victoire, parce que j'avais personnellement parié Giants. Mm-hmm. C'est plus par la performance globale de cette équipe, notamment offensivement. Moi, je pensais que cette équipe, pour gagner le match, il fallait compter sur des pertes de balles de l'adversaire, tu vois. Un petit peu, on va dire, d'événements qui te mettent dans le bon sens et tu finis par gagner ce match parce que t'as été plus propre, etc. Mais non, là, ils ont juste été dominants offensivement. Daniel Jones, il a fait son meilleur Giants C'est-à-dire vraiment en alternant, ou Lamar, ou qui vous voulez, mais en alternant course et passe.
C'est ça. 301 yards à la passe et 2 touchdowns pour la précision. Et il fait 78 yards au sol. Donc il est à la fois le meilleur passeur, ça c'est logique, mais aussi le meilleur coureur de son équipe.
C'est ça. Et c'est une équipe qui a des grandes difficultés au niveau du poste de receveur. Parce que Golladay sous-performe et parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Donc on le sait, c'est leur escouade la plus faible. Mmh. Et là, t'as quand même un mec qui s'appelle Isaiah Hodgins qui est arrivé et qui a dit « Attendez, je crois que vous ne savez pas, mais moi, je suis un vrai bon receveur. » Ça fait plusieurs semaines qu'on le voit monter en puissance. Mais là, il nous a fait un match de patron, 105 yards, un touchdown. Enfin, c'est la première fois que vraiment toutes les squads, globalement, réussissaient à performer en même temps. Le sol, la passe, la ligne, évidemment, parce que sans ligne, tu ne peux pas performer dans tous ces secteurs-là. C'est vraiment la victoire d'un groupe. Et je pense que c'est leur meilleure performance offensive de l'année.
C'est ça. C'est un peu leur force, véritablement, c'est d'être capable. Parce que c'est sûr que forcément, on regarde sur le papier, on dira brut les noms. Mais c'est vrai que je te rejoins en termes d'intensité, notamment dans les tranchées. C'était quelque chose d'assez notable. Tu parlais d'Isaiah Hodgins. Hein. C'est vrai que c'est une des belles histoires, notamment au poste de receveur. Il fait 105 yards et un touchdown sur ce match-là. Il n'y a qu'une passe tenté par Daniel Jones dans sa direction qui n'a pas été complété en l'occurrence. Et c'est vrai que manifestement, c'est pas un joueur sur lequel Minnesota arrive à s'adapter, puisqu'en saison régulière, il avait déjà réussi à compiler 89 yards et un TD. Donc en effet, on a quand même réussi à s'adapter du côté des Giants. Et souvent, encore une fois, par rapport à, je sais que voilà, tu voulais aussi vanter un petit peu le travail de Brian Daboll. Offensivement, on a toujours quasiment su trouver une solution un petit peu démarquée. Je pense par exemple au touchdown de Daniel Bellinger dans la zone rouge, où vraiment il arrive totalement à se faire oublier. Il n'y a pas beaucoup de solutions, mais pourtant on arrive à créer du mouvement suffisant pour vraiment perturber la défense adverse.
Mais de toute façon, tous en fait, que ça soit en attaque avec Brian Daboll et Mike Kafka, que ça soit en défense avec Don Martindale, il y a un moment... Cette équipe est la mieux coachée de la ligue, quoi. Et c'est la preuve aussi qu'une équipe bien coachée en NFL, ça peut gagner même si t'as moins de talent. Parce que sur le papier, on va pas se mentir, hein. La plupart des matchs que les Giants ont gagnés cette saison et ce match face aux Vikings, sur le papier, ils ont moins de talent. Bon. En attendant, c'est un groupe. Et alors, ils sont coachés de manière, absolument formidable. Tout est bien construit, tout est bien équilibré. Ils sont surprenants. C'est-à-dire que tu pensais qu'ils allaient beaucoup s'appuyer sur le jeu au sol. Ils se sont beaucoup plus appuyés sur les passes, hein, parce qu'il y a 35 passes pour 9.
Il y a un gros jeu de Saquon Barkley, mais globalement, Barkley termine à 53 yards au sol. Ouais.
Mais il fait le boulot, tu vois, dans la red zone, quand il y a besoin de gratter des petits yards pour aller chercher la zone d'en-but. Et voilà, il y a des moments, ils arrivent, les mecs, ils font passe. Tu dis, ah oui, d'accord. Vous avez vraiment un plan de jeu extrêmement agressif, mais je ne doute pas que c'était un plan de jeu aussi totalement adapté à l'adversaire. Hein. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont vu des failles dans cette équipe des Vikings. Non, c'est une équipe incroyablement coachée. Et je sais que les playoffs ne sont pas censés rentrer en compte, mais ça renforce ma conviction que si Brian Daboll n'est pas coach de l'année, c'est un scandale.
Oui, en tout cas, il était ultra favori avant ses playoffs et ce serait encore plus incompréhensible qu'il ne soit pas récompensé à l'issue de cette saison. Ça, je te rejoins là-dessus. Alors, juste un petit bémol, j'ai dit Saquon Barkley, un gros jeu, je parlais au sol, hein, parce qu'il y a aussi un gain assez conséquent par le biais des airs. Et puis voilà, comme je disais, via les tranchées, on parlait de la ligne offensive, la ligne défensive qui reste une vraie force des Giants tout au long de cette saison. Là, on a encore un bon Leonard Williams, un énorme Dexter Lawrence également. Donc voilà, c'est vraiment un premier rideau qui pose beaucoup, beaucoup de problèmes et qui a notamment handicapé assez longtemps cette équipe de Minnesota avec notamment quelques flags qui ont coûté un petit peu cher, notamment aux Vikings sur certaines séquences. Alors que paradoxalement, il n'y a pas eu énormément pour Minnesota sur ce match-là. Mais vraiment une équipe assez complète et qui sera à surveiller puisque du coup, il va y avoir les Eagles prochainement au calendrier, hein. Il y aura l'occasion d'en reparler sur le site à l'occasion de la preview. Si on s'attarde un petit peu plus sur Minnesota, parce que justement, je le disais, les Giants ont l'occasion d'en reparler, qu'est-ce qui a manqué très clairement? Déjà, est-ce qu'on peut être légitimement déçu, par exemple, des deux principaux playmakers offensifs que sont censés être Justin Jefferson et Dalvin Cook sur ce match-là?
Jefferson, oui. Après, c'était aussi volontaire de la part des Giants de beaucoup le couvrir et ça a ouvert des brèches, notamment à Hawkinson.
Cette réception pour Jefferson, juste que je précise, cette réception, il fait 47 yards, donc on l'a maintenu à peu près à 7 yards de moyenne.
C'est ça. Après, on a un Cousins. Alors, tu vois, Cousins, c'est un peu difficile parce que statistiquement, il fait un bon match. 31 sur 39, 273 yards, 2 touchdowns. Il fait un bon match, sachant que il n'a, du coup, il y a 8 passes non complétées. Et dans le match, il subit 11 pressions, dont 4 de Dexter Lawrence. Donc ça veut dire que globalement, toutes ces passes incomplètes sont subies sous la pression. Donc le premier coupable pour moi, c'est l'inoffensive. Mais après, en fin de match, on peut quand même dire que Cousins manque, on va dire, un peu de panache, quoi. Ne serait-ce que sur cette quatrième, où il lance une passe qui, de toute façon, a aucune chance de réussir, alors que bon, t'as Justin Jefferson, donc au pire, tu lances une ogive et puis tu pries, quoi.
Oui, surtout mais... Cousins a quand même le bras, ouais.
Non, mais Cousins a le bras, et puis Jefferson, on a vu faire des réceptions absolument incroyables cette année. Je pense que c'est face aux Bills où il fait cette réception improbable et derrière sur le drive de la victoire. Enfin, ou drive avant la victoire, c'était un match tellement fou, je sais plus quel drive c'était, mais là, le mec fait une petite sente sur Hawkinson, quoi. Enfin, c'est... Oui, c'est une sente, plus ou moins. Mais il fait un petit tracé extérieur sur Hawkinson, tu te dis vraiment, le manque de panache est criant, quoi. Il y a un moment, va chercher ta longue réception avec un Jefferson, quoi. Ça manquait de panache, quoi. C'est, ils ont joué en bon père de famille tout le match. Bah ouais, sauf que t'étais derrière la plupart du match, donc il y a un moment, il faut avancer. Ils ont vraiment bien commencé le match, puisqu'il faut un drive de 7-8 minutes où ils marquent le touchdown, mais après, ils ont perdu le film, tout simplement. Et ils ont été battus dans les tranchées, dans le coaching, et c'était trop pour eux. Et ils sont malheureusement, alors j'aime pas utiliser le mot de fraude qu'adorent les Américains, mais... Ils sont malheureusement ce qu'on avait prévu pour une équipe qui a gagné 10 matchs de une possession au moins. Le bilan était peut-être un peu flatteur par rapport au niveau global de l'équipe.
Bah c'est ça qui fait un petit peu mal par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il y a un dernier drive, on sent qu'il est pas forcément bien géré, ou en tout cas on se contente un petit peu de ce que la défense semble laisser, ce que la défense semble offrir, alors que paradoxalement les Vikings se sont peut-être plus retrouvés dans ce genre de cas de figure, donc ont peut-être plus le... On peut se dire qu'il peut avoir plus de ressources, en l'occurrence, peut-être plus de jeux, on va dire, en préparation pour éventuellement anticiper ce genre de situation. Et en l'occurrence, on les a sentis assez démunis sur ce dernier drive où, en effet, il y a notamment cette passe assez courte à destination de T.J. Hawkinson. Mais c'est vrai que globalement, ce résultat est assez logique, malheureusement, pour Minnesota. Parce que, hormis sur le premier drive, Minnesota était quasiment mené pendant tout le match. Donc c'est aussi ce qui pose problème à l'arrivée. Si on fait un petit bilan très rapidement sur Minnesota, est-ce qu'il y a des axes d'amélioration que tu vois en vue de cette intersaison?
Bah, il va falloir prendre une décision avec Cousins. Ça, c'est assez clair. Il va falloir, je pense, en défense, reconstruire un petit peu, parce que malgré tout, on parle de l'attaque, parce que c'est l'attaque qui est le moteur et qu'on espérait qu'elle performe. Mais on a quand même une défense qui prend 31 points contre Isaiah Hodgins. Donc, bon, on ne peut pas forcément ignorer ça. Est-ce que l'attaque qui marque 24 points, c'est pas non plus cata, tu peux imaginer, Vikings qui gagne ce match 24-21. Donc moi, j'irai sur la défense d'abord. Renforcer les lignes, renforcer les defensive back, parce que bon, voilà, ça commence un peu... Même Harrison Smith, légende, hein, mais bon, il a son âge. Ça commence à grincer un peu, donc j'irai adresser la défense d'abord.
Ouais, on va pas trop rentrer dans le détail, mais ils sont censés avoir pris, je crois, Lewis Cine et Andrew Booth lors de la dernière draft. Il me semble que Booth a été blessé très vite.
Et Cine aussi a été blessé la deuxième partie de la saison.
Donc, faudra voir ce que ça donne, mais je te rejoins. Ce sera pas forcément une mauvaise chose, en tout cas, de fournir encore un petit peu plus cette escouade défensive. Ne serait-ce que parce qu'en effet, il y a beaucoup de cadres. C'est vrai, Harrison Smith, Patrick Peterson n'est pas dans ses premières années non plus. Donc voilà, il y a peut-être un petit chantier à voir à ce niveau-là, parce que si tu as un peu le même problème à Minnesota, c'est que il y a une équipe qui a l'air assez complète sur le papier, mais il manque peut-être ce petit regain qu'avait par exemple réussi à apporter Justin Jefferson en attaque, peut-être réussir à avoir ce défenseur de nouveau qui arrive à rebooster un petit peu ce groupe global. On a fait le tour sur la NFC, on passe à présent à l'AFC avec notamment ce duel d'AFC Est entre les Buffalo Bills et les Miami Dolphins. C'est ce qui avait ouvert le bal d'ailleurs dimanche. On a un petit peu craint le pire, on va dire en termes de suspense, Victor, parce que Buffalo s'était détaché très très rapidement pour mener notamment 17-0. Que nenni, finalement, Miami est revenu et nous a offert un match assez dingue. Alors je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que c'est Miami qui a démontré le plein de ressources ou est-ce que Buffalo s'est volontairement, enfin en tout cas sciemment, tiré une balle dans le pied tout au long de cette rencontre?
C'est exactement ce que j'allais dire. Je veux dire, et malheureusement, c'est une récurrence de toute la saison. C'est pas que sur ce match. Le plus grand ennemi de Buffalo, c'est Buffalo lui-même. Et là, clairement, enfin, je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour Skyler Thompson, hein, mais ils reviennent pourquoi? Ils reviennent parce qu'il y a deux interceptions. Ils reviennent parce qu'il y a un fumble retourné en touchdown. Enfin, c'est ça qui remet Miami dans le match. Et après, du coup, bah ouais, la dynamique est arrivée et ils raccrochent les wagons. Mais bon, ce match, il doit jamais avoir lieu. Enfin, il doit jamais avoir lieu. À 17-0, c'est fini. C'est juste Buffalo qui s'est tiré une balle dans le pied. Et là, on arrive à un moment où on peut quand même se poser des questions. Parce que, on va être très clair, Josh Allen, je crois qu'il a fait 14 ou 15 interceptions en saison régulière. Il en fait encore deux là, alors qu'il en avait fait qu'une dans toute sa carrière en playoff. Je dis tout de suite, hein, contre, au hasard, les Bengals ou les Chiefs, tu fais trois erreurs comme ça, t'as perdu le match. Ça passera pas.
On va vite
et c'est
le
trop,
savoir,
c'est trop
temps,
souvent.
Mais...
Ils ont fait pareil contre les Vikings, trop souvent.
Mais est-ce qu'on n'est pas trop, alors là encore une fois sur ce match-là, c'est peut-être pas trop marqué d'un point de vue statistique parce que Josh Allen il fait 23 passes complétées sur 39 tentées, donc c'est pas non plus fou. Mais ce qui est toujours un peu problématique, c'est peut-être le style de jeu hyper agressif de Josh Allen. En tout cas, ce qu'on lui demande de faire, on a tenté d'apporter des solutions au niveau du jeu au sol. En incorporant quelques solutions, je pense à James Cook par exemple qui fait un touchdown au sol sur ce match-là, qui a quand même 12 portées malgré tout. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de caricature un peu, alors, la comparaison est peut-être un peu maladroite, est-ce qu'on n'est pas un peu dans du registre Russell Wilson aux Seahawks de l'époque où on sait qu'il est capable de courir, on sait qu'il est capable de jouer très vertical et on a tendance peut-être à un peu trop en abuser du côté du coaching staff de Buffalo?
Alors ça a pu arriver, mais sur ce match-là je trouve pas. Il y a quand même 26 courses pour 107 yards, donc
oui,
c'est pas
ça.
Incroyable.
C'est équilibré,
mais
voilà.
Mais
est-ce
on
que
va
les,
dire
est-ce
que
les sélections de passes sont bonnes? C'est plus là où moi ça m'interroge.
Après, je vais te dire sur les passons que ça a plutôt marché, hein. La bombinasse pour Stephon Diggs, etc. C'est ce qui a pas marché. Alors oui, la première interception, t'as raison que c'est une passon un peu forcée. La deuxième, c'est plus un rebond, pas de chance, et en plus, c'est une passe intermédiaire, mais. J'ai pas eu l'impression sur ce match-là qu'ils étaient trop agressifs. J'ai presque envie de dire qu'au contraire, ils ont pas assez utilisé Josh Allen au sol pour moi.
4 courses pour 20 yards, ouais.
Ouais, 4 courses, c'est pas non plus, tu vois. Enfin, Josh Allen, il est capable de faire beaucoup plus. Ouais. Mais j'ai trouvé que le vrai problème, c'était plus un problème d'exécution, en fait. Il y avait trop de petites erreurs individuelles, de tracés, de mains, de blocs, de tout ça. Qui est quand même pas habituel chez Buffalo. On avait l'impression que c'était Buffalo qui jouait son premier match en playoff et Miami qui était en mode vieux briscard, genre bon, si on peut la choper, on ira la choper, tu vois. C'était, j'ai trouvé Buffalo très naïf.
J'ai cherché des excuses peut-être un peu, mais est-ce que cette altercation entre Josh Allen et Christian Wilkins n'a pas aussi ou sorti Buffalo de son match ou peut-être aussi un petit peu reboosté Miami, on va dire, peut-être ça les a pas un peu piqué au vif?
Ouais, bah écoute, ça fait partie des playoffs, quoi. Donc,
oui,
un moment, il faut être un peu plus intelligent que ça d'autre côté. Donc voilà. Mais je pense que Buffalo, alors c'est paradoxal dans un match où tu prends 31 points contre Skyler Thompson, mais Buffalo peut aussi remercier sa défense de s'être réveillé en fin de match.
Oui, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de similitudes, mine de rien, avec le dernier match de saison régulière contre New England, hein, où on a senti Buffalo capable d'accélérer à n'importe quel moment. Mais aussi capable de d'être mis en difficulté par la défense, de concéder des turnovers un peu évitables. Là, très franchement, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, hein, notamment sur le domaine aérien, ils ont un Khalil Shakir qui continue de s'intégrer vraiment au niveau du cahier de jeu, hein. Il fait encore 51 yards sur ce match-là. Le retour de Cole Beasley fait quand même du bien dans le slot, et on voit qu'il finit en plus avec un touchdown sur cette partie-là. Il y a un joli catch de Dawson Knox. Donc les solutions offensives, elles sont là du côté de Buffalo, mais c'est vrai que voilà, il y a une espèce peut-être, alors je sais pas, de rythme ou en tout cas de momentum à réussir à négocier, parce que là en l'occurrence, oui, ils se sont vraiment mis dans le pétrin tout seul avec un deuxième carton notamment assez catastrophique. Et après, en effet, il y a cette perte de balle qui les met vraiment dos au mur, quoi. Et c'est vrai que contre Skylar Thompson, alors je sais pas ce que tu penses de la prestation globale de Skylar Thompson, hein. C'est 18 sur 45 yards, c'est 18 sur 45, pardon, 220 yards, un touchdown, deux interceptions. On peut pas dire qu'on en attend énormément de sa part. Est-ce qu'on peut, alors, la défense a joué un grand rôle, ça je pense qu'on peut le dire, très clairement. On l'a déjà plus ou moins expliqué, notamment avec le touchdown retourné de Zach Sealer. Est-ce qu'il a quand même permis à Miami d'y croire, ou est-ce qu'il a peut-être une part de responsabilité malgré tout dans cette défaite?
Bon, il a fait ce qu'il pouvait. Enfin, Skylar Thompson, c'est un joueur de practice squad. Mmh. Je sais que les gens se gossent parce qu'il a été pris 20 places devant Brock Purdy. Bon, c'est vrai que c'était peut-être un peu abusé, parce que Brock Purdy, il a plafonné toute sa carrière universitaire. Mais on va dire qu'à Iowa State, il a montré des choses quand même, on va dire, on savait qu'il y avait un talent global. Skylar Thompson, ça a toujours été un joueur un peu, limité. On va dire ça gentiment. En plus, il est abandonné par son jeu de course. Faut le dire, hein, quand même.
Clairement. Ouais. Mais là, c'est pareil. Tu fais lancer 45 ballons à Skylar Thompson aussi.
Non,
là,
mais je suis
d'accord. Les appels de jeu de Frank Smith sont comme, enfin, ou de Mike McDaniel en l'occurrence, sont quand même, voilà, si jamais des doutes sur ce qui a été fait du côté de Buffalo, très clairement du côté de Miami, on peut s'interroger sur le fait de vouloir faire lancer énormément Thompson sur un match de playoff.
Ah bah, on peut s'interroger sur le plan de jeu. Il prend 11 pressions, il prend 4 sacs. Franchement, il a fait ce qu'il a pu. On l'a dit, hein, les 31 points, en réalité, ils sont gonflés par un touchdown défensif et des positions offensives avantageuses obtenu par les turnovers, hein, parce que ça joue, hein, forcément.
Oui, parce que si tu me permets, juste redonner les stats globales, on est à 423 yards pour Buffalo, 231 pour Miami.
C'est ça, la défense de Buffalo, elle fait le boulot. C'est juste qu'elle n'est pas aidée par cette attaque qui perd des ballons. Mais globalement, ils ont contenu Tyreek Hill, ils ont contenu Jane Waddle, qui avait en plus eu la mauvaise idée d'enduire ses gants de beurre, ce qui est jamais une bonne chose, hein. Si vous êtes receveur, ne faites pas ça. Et voilà, je pense que ils ont survécu. C'est bizarre de dire ça dans un match à 34-31, mais ils ont survécu grâce à la défense pendant très longtemps. Je crois qu'après interception de Hollande, ils sont quasiment en red zone au début du drive. On l'a dit, à touchdown défensif, etc. Mais après, c'était trop. Skylar Thompson, tu peux pas lui demander d'affronter les Bills quasiment à lui tout seul. Avec une ligne moyenne, sans jeu de course, enfin, il y a un moment, c'était trop, quoi.
Buffalo en développera. Miami, justement, alors on sait que forcément sur ce match-là, il y a l'ombre de Tua Tagovailoa, malheureusement, qui va laisser beaucoup de regrets à Miami, parce que ce serait peut-être passé malgré tout, hein, avec l'ancien quarterback d'Alabama. Donc on va déjà espérer qu'il se remette bien. Est-ce qu'il y a d'autres priorités à assumer, on dira, du côté du front office de Miami et de Mike McDaniel?
Bah pour moi, la priorité numéro un, c'est la ligne. Alors, je sais que là encore, c'est quelque chose sur lequel ils ont beaucoup investi et ils n'ont pas eu de chance, hein, avec Terron Armstead qui se blesse, etc. C'était pas de bol, faut pas se mentir. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il y a des postes de garde qu'il faut adresser. Au niveau du tight end, je pense que Gesicki est en fin de contrat, donc voir un peu, ça reste... À un moment, il va falloir trouver des solutions quand les mecs auront un an de vidéos sur Hill et Waddle. Donc, avoir un tight end, ça peut être une solution. Après, en défense, là, par contre, il y a un vrai groupe qui s'est créé avec beaucoup de stars pour moi. Il va falloir évidemment faire des petits ajouts. Là encore, pas de chance, hein, Byron Jones, le cornerback numéro 2, qui serait cornerback numéro 1 dans beaucoup d'endroits. Et blessé, donc ça c'était aussi pas de chance, mais globalement moi je pense qu'il faut continuer à rajouter du talent, cibler éventuellement quelques postes, je l'ai dit, dont garde, qui pour moi nécessite d'être adressé, et puis prendre une décision sur Tua, parce que le pauvre mec, quand même 3 commotions en une année et tout.
Oui, puis malheureusement, oui, ce genre de situation. Encore une fois, on n'aime pas faire le... Voilà, comparaison n'est pas raison, mais voilà, sans systématiquement repartir sur du RG-free, tout ça, machin, C'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, quand on a tendance
bah,
à
moi,
s'exposer comme il l'a fait,
de...
notamment déjà en college football. Alors même si c'était pas, il y avait pas de problème de commotion en college football, mais il y avait déjà des petits pépins, notamment une très longue blessure à la jambe. C'est voilà, c'est sûr que ça va devenir un petit peu critique pour Miami si ça commence déjà à s'accumuler alors qu'il est dans sa quoi troisième saison NFL. Il vient de terminer
ouais, mais
la troisième.
Quand tu vois comment, enfin, tu sais après sa deuxième commotion, moi où je faisais partie des gens qui pensaient qu'il devait pas rejouer de la saison, tu sais la commotion où il s'est totalement figé, etc. Mmh. Là, je me demande quel sera l'avenir de sa carrière. Donc, on va voir en off-saison, mais je ne serais pas surpris qu'il prenne sa retraite. Hein. Et je ne lui en voudrais pas du tout. Donc, à voir comment ça va se passer aussi. Ça va être un gros sujet.
Tout à fait. Du coup, on reparlera, on redéveloppera en détail, bien sûr, dans une prochaine émission sur Buffalo, notamment à l'occasion donc, du tour de division. Buffalo qui retrouvera donc Cincinnati. Au prochain tour, les Bengals qui affrontaient en prime time les Baltimore Ravens. C'est un remake de la semaine dernière hein, où Cincinnati avait déjà remporté son match donc face aux Ravens. Cette fois-ci, un match un peu plus accroché. Victoire 24-17. Victoire en faveur donc de Cincinnati. Et là encore, alors on s'attendait notamment à voir une équipe de Cincinnati plutôt en verve offensivement. Hein. On a vu quelques séquences, mais c'est la défense, là aussi, qui fait la différence du côté de Cincinnati. Avec notamment cette action décisive de Sam Hubbard.
Oui, bah oui, totalement. Ce quarterback sneak qui se transforme en fumble. Je crois que c'est Logan Wilson qui le provoque et en effet ouais. Hubbard qui le récupère et qui l'envoie sur 98 yards. Bah écoute, oui, c'est parce que qu'on soit clair, hein, on était à un moment du match. Il y avait 17-17, hein, si je dis pas de bêtises. Uh-huh. Le momentum était 100% aux Ravens. S'il marque le touchdown là-dessus, je pense qu'il gagne le match. Je pense vraiment qu'il gagne le match. Je pense que les Bengals étaient plus dedans. Et clairement, c'est un éclair défensif qui sauve ce match. Match agréable par ailleurs, mais match où on s'attendait en effet à voir des Bengals rouler sur les Ravens, bah ça a pas du tout été le cas. L'attaque a été en difficulté. Il y a des raisons très concrètes à ça. Mais la défense a sauvé les meubles, clairement. On a vu un bon groupe qui a joué globalement un bon match. Tout le monde a contribué, à part cette action de Bard, il n'y a pas un joueur particulièrement à faire sortir du lot. Mais tout le monde a fait son match et c'était plutôt... Ils ont contenu ce qu'ils pouvaient contenir, un peu de difficulté au sol, mais bon, malgré tout, ils ont réussi à faire les plays qu'il fallait faire.
Alors, c'est la question un peu que tu te posais en off, et ça va faire un petit peu écho, hein, on va pas mordre sur la preview, mais ça va faire un petit peu écho à ce qui va se passer contre Buffalo. Du coup, est-ce que les Bengals sont plus dangereux offensivement ou défensivement au final? Parce qu'on voit que, mine de rien, ils ont des armes. On le savait déjà depuis l'année dernière, hein, on voit qu'ils ont de la pression avec un Trey Hendrickson, par exemple. Ils ont aussi des joueurs capables de provoquer des turnovers. Est-ce qu'il y a un domaine où ils sont plus dangereux qu'un autre, en l'occurrence? Offensivement, on le voit, mais défensivement, ça a l'air d'être très cohérent.
Alors, théoriquement, ça devrait être attaque. Le problème, c'est que cette ligne offensive qui s'était considérablement améliorée par rapport à l'année dernière, elle a pris déjà un gros coup quand Lael Collins, ce tackle droit, s'est blessé en milieu fin de saison et qu'il a été déclaré out pour saison. Et là, maintenant, on n'a pas pour l'instant d'update, mais on a quand même Jonah Williams qui est sorti sur blessure aussi. Donc, ça veut dire potentiellement tes deux tackles. Et ça s'est ressenti tout de suite. Alors bon, il faut dire, la défense de Baltimore, ce n'est pas des peintres. Hein. Mais ça s'est ressenti tout de suite. Et on a vu une attaque beaucoup moins agressive. Et en effet, la défense a sauvé les meubles. Comme d'ailleurs, la défense avait, il faut le dire, un peu gagné la finale de conférence en deuxième mi-temps contre les Chiefs. Enfin, ça reste un exceptionnel groupe. Et faut pas croire que les Bengals, c'est que Burrow, Chase, Higgins et Boyd. Non, non. C'est
oui,
aussi.
Il y a un plan B si ça se passe pas bien. Et ouais. En tout cas, il y a une défense capable d'élever son niveau de jeu si le besoin s'en fait sentir.
Il y a un plan B, c'est on prend 17 points parce qu'on a provoqué 3 pertes de balles, parce qu'on est là. Enfin, il y a une vraie bonne escouade.
Parce que c'est vrai, c'est ce que tu disais en l'occurrence. Alors. Là aussi, hein, je ne vais pas reposer la même question que pour le Buffalo-Miami, pardon, mais on a l'impression que c'est une défense qui a plié sans rompre, parce qu'en l'occurrence, ils concèdent 364 yards au total sur ce match-là, mais ils ont réussi quand même à bloquer les Ravens, notamment dans la zone rouge. Donc moi, encore une fois, ma question, et c'est peut-être un petit peu pour faire la passerelle avec Baltimore, parce qu'encore une fois, on aura l'occasion de reparler des Bengals, notamment sur la suite de ces playoffs. Est-ce que tout le mérite revient à la défense, ou est-ce que, comme l'a laissé un petit peu sous-entendre J.K. Dobbins, par exemple, le running back des Ravens, en après-match, est-ce qu'il y a quand même des éléments qui font que du côté de Baltimore, on peut avoir de gros regrets avec une mauvaise gestion de certains gros temps forts dans la zone rouge, ou en tout cas près de l'embute adverse?
Oui, Dobbins, je crois que c'est lui hein, qui a dit aussi qu'ils auraient gagné avec Lamar. Bon, ça, c'est par ça. Contre, c'est du football fiction et j'en suis pas sûr, parce que Huntley, on va pas se mentir, il fait son match. Oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, on a eu là encore un coaching offensif surprenant. Roman, qui il y a quelques années était annoncé partout comme le grand Manitou, etc. Là, il a pris un peu du plomb dans l'aile. Oui, il y a un jeu de course. En fait, le jeu de course, il a marché. Et pourtant, il n'a pas été tant utilisé que ça. C'est-à-dire qu'on a 35 courses pour 29 passes. Alors, ce qui, dans beaucoup de franchises, voudrait dire on s'est tourné vers la course, mais enfin, on n'est pas dans n'importe quelle franchise, hein, on est à Baltimore. Ils auraient très bien pu faire 50 courses pour 15 passes, parce que les courses, globalement, ça passait. Dobbins, il était en forme. Huntley, avec ses jambes, il était bien aussi. Donc, moi, il y a un moment, je me disais, mais ouvre le playbook Lamar Jackson 2019. Tu sais, le raid, course, raid, course, raid, course, raid, course. Et non, ils ont voulu absolument être plus intelligents et plus flamboyants. Et ils se sont un peu brûlés les ailes. Donc,
c'est ça, on a l'impression qu'ils ne sont pas qu'ils se sont laissés griser, mais ouais, qu'ils sont rentrés dans une situation en se disant on va nous attendre. Donc plutôt que de jouer, plutôt que de faire un peu une tactique à la Titans, où de toute façon on va y aller coûte que coûte avec des forces qu'on connaît, quitte à ce que ça fonctionne pas, bah on va essayer de changer un petit peu notre fusil d'épaule. Ça a été assez symptomatique en fin de match parce que tu le disais, le cahier de jeu au final il paraît assez équilibré. Maintenant c'est vrai que, alors le score aidant bien entendu, mais même quand il y avait relativement pas mal de temps dans les 2-3 dernières minutes, on a quand même beaucoup fait lancer Tyler Huntley avec forcément les limites que ça peut présenter, parce que même quand Huntley scramblait, il n'y avait pas forcément énormément de solutions derrière qui étaient proposées. Il était un petit peu obligé de lancer dehors, quoi.
Non, mais on est un peu résultat orienté, parce que c'est sûr que si Baltimore gagne, la narrative, comme on dit, change un peu. Mais
qu'est-ce qu'il parle anglais, cet homme, c'est incroyable.
C'est beau, hein, t'as vu ? C'est mon métier, hein, ça fait 10 ans que c'est mon métier. Mais bon, enfin voilà, la défense a fait globalement le travail. Et l'attaque a cédé au pire moment.
Voilà. Et il y a quand même, malgré tout, cette action qui aura pu permettre à Baltimore d'arracher la prolongation. Avec cet Ave Maria, qui est plus ou moins droppé par des defensive backs de Cincinnati, qui tombe légèrement dans les mains de, je crois que c'est James Prochet qui était dans le secteur.
Ouais.
Et qui relâche le ballon, également. Donc voilà. On va dire des regrets pour Baltimore, mais encore une fois, c'est un peu symptomatique de ce qu'on voyait ces dernières semaines, c'est-à-dire une équipe vaillante, une équipe qui bataille notamment défensivement, mais qui reste confrontée aussi à ses nombreux problèmes de blessures, notamment en attaque. Certes, il y a le retour de Ronnie Stanley, mais enfin, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu par exemple Ronnie Stanley et Lamar Jackson ensemble sur un terrain cette saison, donc c'est un peu dommage.
Même la saison dernière, ça fait 2 ans et demi, ouais. Mais le problème, c'est que Lamar Jackson, est-ce qu'il va jamais retrouver son maillot violet sur les épaules, ça serait une question pour un
voilà, ça, c'est, ouais, bah, ça c'est sûr, ça c'est la question, parce que du coup, problème de genou, bon, c'est pas... C'est
il
pas
ne s'est très, pas très déplacé très avec l'équipe hein, pour les playoffs.
Voilà.
Ce qui est assez rare, même pour un joueur blessé.
Voilà, donc en tout cas, ça reste à voir. Du coup, axe d'amélioration lié à Lamar Jackson, ou est-ce qu'on part sur autre chose du côté de Baltimore?
Ah bah, axe d'amélioration receveur. Parce qu'il y a un moment, moi je fais partie,
ah oui, bah,
des...
là, oui, oui.
Je fais partie des gens, ça fait 10 ans que je défends le front office des Ravens, regardez, c'est génie, machin et tout. Mais en fait, faut avouer qu'ils font de la merde depuis 5 ans sur les receveurs, quoi. Il y a un moment, ils sont incapables de trouver un receveur potable, et quand ils en ont un potable, ils le trade contre un paquet de chips et 3 Kinder. Enfin, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Donc, non, receveur, tu peux pas demander à Lamar Jackson ou à n'importe qui d'autre d'équilibrer ton attaque si t'as des plots au poste de receveur. Attends, quand tu vois ce que les Giants font avec Isaiah Hodgins, il y a un moment, enfin.
Oui, tu peux avoir un peu mieux avec les squads de receveur.
Non, mais ça t'expose, quoi.
Non, même si Marc Andrews fait son match. Alors, je sais que c'est pas ta définition de receveur. Là, on parle vraiment de menaces écartées. Mais, comme toujours, comme souvent, Marc Andrews fait le travail.
Non, mais Andrews, au niveau des tight ends, enfin, si tant est qu'il est tight end, parce que il ne
c'est une arme offensive.
Ben oui, oui, c'est ce que il est ce que doit être Cal Pitts, hein, mais apparemment Arthur Smith ne sait pas comment on utilise ses joueurs, mais je suis c'est d'accord avec toi, Cal Pitts, ça serait Andrews 2.0 si jamais. Mais bon, non, il est bien utilisé, mais il y a que lui.
Tout à fait. Donc voilà, receveur avant tout du côté de Baltimore. Exactement. Et du côté de Cincinnati, voilà, on sera très curieux de voir ce que ça va donner contre Buffalo, voilà, et voir justement comment cette défense, par exemple, va être capable de s'adapter à l'attaque des Bills. Donc ce sera à voir notamment dans une prochaine émission au cours de cette semaine pour préparer au tour de division, parce que mine de rien, on connaît déjà 3 rencontres avant la dernière rencontre de la nuit prochaine, donc entre Tampa et Dallas, hein, vous connaissez sûrement déjà le résultat si vous nous écoutez maintenant, mais en tout cas avant la dernière rencontre, on aura donc dans l'AFC Buffalo contre Cincinnati, Kansas City contre Jacksonville, et donc une des deux rencontres d'NFC qui est également connue, ce sera entre les Philadelphia Eagles et les New York Giants, autre rencontre intra-division, parce qu'on n'en a pas eu assez déjà depuis le début de ces playoffs. Je crois qu'on a fait le tour globalement, mon cher Victor, je te remercie en tout cas d'avoir été en ma compagnie pour ce débrief des 3 matchs de la nuit de dimanche à lundi. Restez bien connectés en tout cas sur touchdownactu.com, et comme je disais, on se retrouve notamment avec le débrief Tampa Dallas à venir et la preview notamment du tour de division du week-end prochain. Merci à tous et à très vite sur les antennes de TDM.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.